Un rien imperceptible et tout est déplacé. Et si les choses n'étaient pas réellement telles que nous les voyons? Et si les choses étaient différentes? Un rien imperceptible et tout est déplacé, s'exclamait la jeune Mariana dans le maître de Santiago de Monterland. Un rien. Qu'est-ce? Et pourtant, cette phrase ne rejoindrait-elle pas la théorie des atomes, mesdames, messieurs? Ces derniers sont imperceptibles à l'œil nu, et pourtant, les atomes nous entourent et nous constituent. Oui, ces petites particules invisibles qui créent le monde visible. Il n'y aurait rien sans eux. Un rien comme les questions que les scientifiques se posent. L'homme a cherché de tout temps à comprendre de quoi le monde était fait, en se posant des questions jugées parfois aberrantes, contraires au bon sens et aux vérités établies. En effet, l'histoire nous montre que les grandes découvertes, passées et modernes, ont tendance à commencer leur chemin sous forme d'hérésie. Prenons Newton. Nous gardons tous en mémoire ce fameux épisode de cette pomme qui lui tomba sur la tête et lui révéla de nulle part les lois de la gravité. Ce scientifique apporta de nombreuses questions que l'on ne se posait pas encore. Einstein, lui aussi, se posa beaucoup de questions. Ces dernières ont amené deux théories de la relativité dont découlent deux conclusions révolutionnaires qui sont toujours valables à ce jour. La première est que l'espace et le temps sont liés, la seconde est que l'un et l'autre sont relatifs. Il est souvent répété que cette seconde théorie a révolutionné notre compréhension de l'univers et de la gravité. Cette révolution ne s'est pas arrêtée au cercle des physiciens, elle a donné naissance à plusieurs applications concrètes utilisées au quotidien. Pourtant, Einstein n'était-il pas pris pour un fou? Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence et de savoir. Nous retrouvons aussi d'ailleurs cette folie dans la littérature, et plus particulièrement chez les poètes qui ne sont pas écoutés et sont considérés comme fous. Proust disait d'ailleurs « La vraie beauté est si particulière et si nouvelle qu'on ne la reconnaît pas pour la beauté. » Alors qu'est-ce que la beauté? Nous avons eu droit à diverses réponses à cette question. L'auteur des Chants de Maldoror définit sa conception de la beauté dans cette expression. Beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Il privilégie donc, vous l'aurez compris, l'insolite, le bizarre et le fou. Pourquoi? Et d'ailleurs, l'auteur de ces chants, comme bien d'autres, est pris pour un fou. Pourquoi? Changeons un instant de point de vue, mes amis, et reportons-nous dans l'esprit de ceux qui récusent l'inconnu. De ce point de vue-là, tout est évident. Mais oui, pourquoi s'intéresser à autrui, puisqu'il est différent de nous, puisqu'il ne pense pas comme nous? Puisqu'il ne partage pas les mêmes idées, les mêmes loisirs et les mêmes goûts. Il ne nous comprendra pas, et nous ne le comprendrons pas. Lui parler? Peine perdue. Mieux vaut se taire, mieux vaut n'être que soi, puisque ce sont des étrangers. Peine perdue, vous disais-je, puisqu'il n'y a rien à comprendre de leur vie, de leur expérience et de leurs mœurs. Peine perdue, puisque des mondes d'indifférence nous séparent, Il y aurait des océans entiers à traverser. Peine perdue, on a bien assez de son assiette, de sa chaise, de sa table, de son pays, de sa ville, de son continent. Pourquoi s'intéresser à l'autre? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Pourquoi poser des questions? Les réponses, nous les avons. L'inconnu, nous ne l'apprécions pas, puisque nous l'écartons, nous l'éloignons, nous le nions, nous le jugeons, nous l'excluons, nous le condamnons. Et pourtant, nous ne le connaissons pas. Que se passe-t-il si on n'attache pas la plus grande importance aux paroles des fous et des inconnus? Que se passe-t-il si on n'attache pas la plus grande importance à ces paroles qui surgissent de nulle part? Eh bien, on se contente de ce qu'on sait. On se contente des réponses connues, de la norme, des personnes qui nous entourent. On se contente de nos amis, de notre famille, de notre entourage. Nous vivons dans notre zone de confort. Nous vivons dans une bulle dans laquelle nous oublions que nous confronter aux idées des autres peut nous être fortement bénéfique. Comment avoir une ouverture d'esprit alors que nous nous enfermons dans ce que nous savons déjà? Nous ne laissons pas place à l'inconnu. Certes, l'inconnu peut parfois faire peur. Mais n'avons-nous jamais été surpris lors d'un visionnage d'un reportage, lors de la lecture d'un livre ou lors d'une rencontre? N'avons-nous jamais été surpris de constater qu'à la fin, on en ressort bien plus riche? Je vais peut-être paraître simpliste, mais regardez-nous ce soir, vous m'écoutez gentiment, et pourtant, la majorité d'entre vous ne me connaît pas. Peut-être mes idées vous paraissent-elles folles et insolites, ou peut-être pas. En tout cas, vous accordez une certaine attention à ma parole et à mes réflexions, et je vous en remercie. Peut-être avons-nous, mes collègues et moi, ce soir suscité en vous une émotion, peut-être avons-nous su vous convaincre, qui sait. Moi. Cet échange fait-il pour autant de nous des êtres naturellement sociables? Robinson Crusoe a fait l'expérience de la solitude absolue et voit peu à peu sa santé mentale vaciller. L'homme a besoin, me semble-t-il, de compagnie, de ses semblables, et pas uniquement le vendredi soir. Regardez autour de vous. Alors, l'être humain nous apparaît bien naturellement sociable, n'est-ce pas? Pourquoi rejette-t-il l'inconnu et le fou alors? Toby Nathan, docteur en psychologie, a publié de nombreuses revues centrées sur la psychanalyse et sur l'étude de notre inconscient. Il nous dit « Il faut attacher la plus grande importance aux paroles des fous et des inconnus. À ces paroles qui surgissent de nulle part. Elles portent souvent les réponses aux questions que l'on ne pose pas encore. » Le conseil de ce grand psychanalyste ne serait-il pas une invitation à une réflexion sur nous-mêmes, sur le regard que nous portons de l'extérieur? Ne faudrait-il pas nous analyser pour alors constater que le problème ne vient pas des autres, des inconnus, des nouvelles réponses des fous, mais bien de l'intérieur, de nous? Lorsque vous avez devant vous quelqu'un d'inconnu, qui vous paraît fou, ne le renvoyez pas à sa folie ou à sa différence. Il faut s'ouvrir aux autres et à la différence, à l'inconnu et à ce brin de folie qui nous caractérise tous, mais aussi trouver chez chacun l'universel. Les barrières qui existent entre nous et les autres sont celles que nous avons posées et sont le reflet de nos propres démons. La peur d'être blessé, la peur d'être déçu. Mais ne pas courir le risque, c'est aussi ne pas s'offrir l'occasion de vivre une expérience nouvelle, de connaître le bonheur. Le pauvre Sartre nous dit que l'enfer, c'est les autres. Mais j'aurais plutôt tendance à écouter Lucrèce, lorsque dans son traité de physique, il parle des gens nombrilistes. L'enfer est en eux. Heureusement, vous, vous m'avez l'air vraiment heureux. Et je vous en remercie.
Cette année, deux bistrots à chat, des bars à chat, vont ouvrir leurs portes à Liège. Les clients pourront boire, y manger, mais aussi jouer avec les chats. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, pourquoi pas ? Après tout, ça nous est inconnu. Il me semble qu'en Chine ou au Japon, ces bistrots existent déjà. C'est dans leur quotidien, ils y trouvent un certain plaisir, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains veulent le mettre chez nous. Nous allons y retrouver sûrement une certaine sympathie, la joie de caresser un animal. Peut-être sommes-nous allergiques, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas en avoir chez nous. Alors nous allons aller dans ce bistrot pour les caresser, pour en profiter. En tout cas, le temps que nous aurons pour ne pas éternuer. Ou peut-être parce que nos parents ne veulent pas d'animaux de compagnie. Nous irons là et nous ne leur dirons rien. Ou peut-être allons-nous en ramener un, en cachette, qui sait ? Merci.